I'm Mr. Bilbo Baggins. I've lost the dwarves and I've lost the wizard and I don't know where I am.
J.R.R. Tolkien, le conte de fées et l'héritage du Seigneur des Anneaux.
Bonjour, vous êtes avec Jean-Rodolphe Turlin pour parler de la notion du conte de fées chez J.R.R. Tolkien et l'héritage du Seigneur des Anneaux. À la fin des années 30, J.R.R. Tolkien, alors professeur d'anglo-saxon à l'université d'Oxford et spécialiste du célèbre poème épique Beowulf, travaille à titre privé sur quelques contes merveilleux qu'il écrit à l'intention de ses enfants. Il continue de développer la mythologie du Silmarillion et les langues imaginaires qui y sont liées. Ses travaux personnels sont l'occasion pour lui de réfléchir à la nature, l'origine et la fonction du conte merveilleux. Qu'est-ce qu'un conte de fées? Quelle peut en être l'origine? Et surtout la question la plus importante pour Tolkien. À quoi cela peut-il bien servir? Tolkien se pose ces questions depuis son adolescence, à l'époque du TCBS, ce club d'étudiants qu'il avait fondé avec plusieurs amis à la King Edward School de Birmingham, avant la guerre. Les réponses à ces questions, il ne les a pas encore tout à fait trouvées lorsqu'il publie son premier roman, Le Hobbit, en 1937. En commençant à travailler à la suite du Hobbit en 1938, une histoire beaucoup plus sombre et adulte que ne l'était l'histoire de Bilbo Baggins, il commence à y voir clair et à trouver les réponses à ses questions sur les contes. Et sans le savoir, sa vision et son analyse naissante du conte merveilleux vont influencer durablement un pan entier de la littérature anglo-saxonne. En 1938, l'université de St. Andrews, en Écosse, propose à Tolkien d'assurer une conférence Andrew Lang. Les conférences Andrew Lang sont une sorte de tradition dans cette université qui honore tous les ans depuis les années 20 un de ses élèves les plus célèbres, Andrew Lang, qui était un auteur, un critique littéraire et un folkloriste écossais que Tolkien a découvert durant son enfance au travers des recueils de contes qu'il lisait avec sa mère. Tolkien accepte donc cette conférence et propose une allocution sur le thème des contes de fées, qui était donc un sujet de prédilection d'Andrew Lang. Cette conférence a lieu en 1939. Satisfait de son travail, Tolkien reprend et développe substantiellement le texte de sa conférence, affinant ses très nombreux exemples et arguments, jusqu'à en faire, dans les années 40, un véritable essai. Il ajoute à sa réflexion sur le conte de fées le concept de catastrophe, qu'il définit comme un événement heureux qui suscite la joie par la découverte d'une vérité sous-jacente. Il relie par ailleurs cette vérité sous-jacente, inhérente au conte de fées, au message des évangiles. Il s'exprime sur ce sujet du dénouement heureux et soudain dans une lettre adressée à son fils Christopher dans les années 40.
J'ai forgé à ce propos le terme « e-catastrophe », le soudain retournement heureux d'une histoire qui transperce d'une joie provoquant les larmes. J'estime que c'est la plus haute fonction que le conte de fées puisse produire.
Pour Tolkien, un conte de fées est réussi lorsqu'il dévoile un monde cohérent, dans lequel l'esprit du lecteur s'approprie et accepte la vérité sous-jacente exprimée dans le conte. Qu'il rentre dans ce monde secondaire en s'accordant avec les lois internes de son univers. Tolkien parle alors de sous-création. La sous-création vient derrière la création première, qui est celle de Dieu. Mais pour Tolkien, c'est une fonction parmi les plus nobles de l'homme. Et l'espace féerique, ou parfois mythique, dans lequel l'homme peut s'exprimer avec la sous-création, c'est ce que Tolkien appelle en anglais « fantasy », c'est-à-dire l'imagination fantastique. Pour aller plus loin, Tolkien a même inventé un nom qu'il applique à cette capacité de création consciente d'un mythe ou d'une mythologie par l'homme, pour une œuvre littéraire. C'est la mythopoeia, un néologisme inspiré du grec, qui signifie la fabrication des mythes. Le terme est passé aujourd'hui dans le vocabulaire littéraire courant, et s'applique notamment au genre de la fantasy moderne. Mais Tolkien précise que la sous-création féerique n'est pas dénuée de dangers et de pièges. Et de fait, contrairement à Andrew Lang et à d'autres folkloristes qui l'ont précédé, il considère que le conte de fées n'est pas seulement réservé aux enfants. Il peut et doit s'adresser tout autant aux adultes, par la portée du message qu'il peut contenir. L'essai sur les contes de fées est publié pour la première fois en 1947, dans une modeste revue universitaire d'Oxford. Mais c'est sa réédition de 1964, après l'immense succès du Seigneur des Anneaux, qui donnera leur pleine lumière aux théories de Tolkien sur le sujet. Find myself beside a stream of empty thought, like a leaf that's fallen to the ground. Carried by the flow of water to my dreams, and woken only by your sound. Avec Le Seigneur des Anneaux, Tolkien met en application ses propres théories sur le conte de fées et sur les mythes. Il élabore, avec ce roman, qu'il relie à sa mythologie du Silmarillion, un passage vers une gigantesque œuvre monde qui ne sera publiée qu'après sa mort. C'est la mythopoeia par excellence, avec une histoire passionnante, une épopée collective où émergent des quêtes individuelles, un entrelacement élaboré des récits, la mise en scène d'une étonnante e-catastrophe finale, le tout accompagné de cartes géographiques, de chronologies, de généalogies, d'annexes et d'appendices aussi captivants que des récits historiques. Tolkien crée ainsi un modèle inégalé, un maître étalon de la littérature, une référence absolue, à l'aune de laquelle tout un pan de la littérature anglo-saxonne contemporaine tentera désormais de se mesurer. Après la publication du troisième tome du Seigneur des Anneaux en 1955, C.S. Lewis, l'ami de Tolkien et auteur des romans du monde de Narnia, une autre célèbre mythopoeia, écrit une critique légèrement subjective, mais qui résume bien l'impact de ce roman sur le lecteur.
Le livre est trop original et trop riche pour porter un jugement définitif après une seule lecture. Mais on sait tout de suite qu'il nous a fait quelque chose. Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Find myself beside a stream of empty thought, like a leaf that's fallen to the ground. Only by your sound.
Le Seigneur des Anneaux marque la première génération de ses lecteurs, puis la seconde génération, en Angleterre, comme aux États-Unis où le roman est publié dès 1954, mais aussi dans le reste de l'Europe. Ces premières générations, ce sont les enfants du baby-boom occidental. Une génération de plus en plus contestataire, avide de liberté et de renouveau. La jeunesse fait du Seigneur des Anneaux un phénomène littéraire. Aux États-Unis, une édition pirate du Seigneur des Anneaux, sortie en 1965, est un énorme best-seller sur les campus des universités. L'édition officielle, soutenue par Tolkien lui-même, est elle aussi, un an plus tard, un nouveau best-seller. Une sorte de culte adolescent apparaît alors. Ce sont les premiers signes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Tolkien fandom, c'est-à-dire la communauté informelle des admirateurs de Tolkien à travers le monde. L'influence de Tolkien sur cette jeunesse est indéniable. Sans simplifier ou rentrer dans une forme de caricature, on peut dire que l'œuvre de Tolkien, Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux dans les années 60, influence d'abord des musiciens, à l'aube de l'ère psychédélique. Ces artistes sont marqués par l'univers épique du roman, autant que par l'interprétation qu'ils en font à propos du refus du monde contemporain ou de la puissance industrielle. Si les hobbits et leur mode de vie proche de la nature fascinent les musiciens pop des années 60, les elfes ont la part belle dans les années 70 et dans plusieurs fameuses compositions de rock progressif. Puis la mythologie plus sombre de la Terre du Milieu prend le pas, et des artistes comme le groupe Led Zeppelin s'emparent des thèmes du monde de Tolkien et de la fantaisie émergente dans leurs chansons. Une génération d'artistes, peintres, dessinateurs et illustrateurs marqués par le Seigneur des Anneaux accède à la reconnaissance du public à partir de cette époque, via les calendriers Tolkien. Le concept est simple. Tous les ans, depuis 1969, un éditeur publie un calendrier illustré sur le thème de l'œuvre de Tolkien. Les premiers calendriers sont diffusés de façon confidentielle aux États-Unis. Mais à partir de 1973, l'année de la mort de Tolkien, le marché se développe aux États-Unis, en Angleterre et dans le reste de l'Europe, et des illustrateurs célèbres vont y faire leurs premières armes. Les frères américains Hildebrandt dans les années 70, puis le britannique Alan Lee, et les canadiens Ted Nasmith et John Ho dans les années 80 et 90. C'est aussi à cette époque que se développent les premiers jeux de rôle et les associations d'admirateurs de Tolkien. Si les premiers s'intéressent à Tolkien dans un cadre parfaitement ludique, c'est-à-dire l'exploration du monde du Seigneur des Anneaux à l'aide d'un scénario dans un jeu réunissant plusieurs joueurs, les seconds, réunis au sein d'associations, s'intéressent à Tolkien pour la richesse de son monde. Cet intérêt et le nombre des admirateurs et des chercheurs en herbe augmentent avec le temps et avec la sortie du Silmarillion en 1977, des Contes et légendes inachevées en 1980, puis de la série L'Histoire de la Terre du Milieu à partir de 1983. Paradoxalement, un malentendu s'installe. L'engouement d'une partie de la jeunesse contestataire des années 60 pour Le Seigneur des Anneaux, puis la connivence entre la Terre du Milieu, les jeux de rôle et la musique rock dans les années 70-80, ont donné une réputation douteuse à l'univers de Tolkien. Alors, il faut attendre la fin des années 90 pour voir émerger des études universitaires sérieuses sur son œuvre. Des études qui profitent de la publication des œuvres posthumes et qui suivent le chemin tracé par quelques précurseurs, comme le professeur Thomas Alan Shippey à Oxford en Angleterre. Celui-ci écrit en 2006 à propos de Tolkien.
Tolkien a redonné vie à la fantasy. Il l'a rendue respectable. Il a fait naître un goût pour elle, chez les lecteurs comme chez les éditeurs. Il a ramené les contes de fées et les mythes des marges de la littérature. Il a élevé le niveau pour les auteurs de fantasy. Son influence est si puissante et omniprésente que pour bien des auteurs, la difficulté n'a pas été de le suivre, mais de s'en dégager, de trouver leur propre voie.
Si les littératures de l'imaginaire et du merveilleux, qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme de littérature fantasy, existaient déjà bien avant Tolkien, il est indéniable que Le Seigneur des Anneaux fait partie des quelques œuvres qui marquent fondamentalement ce genre. Ainsi, on retrouve dans ce genre littéraire quelques archétypes, quelques schémas récurrents, mettant en scène des créatures imaginaires, des personnages héroïques, consciemment ou malgré eux. Des ambiances inspirées à la fois de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, teintées de merveilleux et de magie. On reconnaît très souvent des elfes, des nains, des gobelins ou des orques, qui sont les mêmes créatures dans la Terre du Milieu de Tolkien, mais qui peuvent être des peuples différents, avec d'autres noms, dans d'autres cycles de fantasy. Il y a des dragons, ou d'autres monstres fantastiques. Il y a le magicien, le sorcier, ou le guerrier, qui peut être un noble personnage, ou un barbare. On peut même trouver des petits peuples merveilleux, plus discrets et pacifiques, à l'image des hobbits de Tolkien. Bien entendu, si l'influence de l'univers de Tolkien est palpable dans un certain nombre d'œuvres de la fantasy moderne, ce n'est pas systématique. D'autant que celle-ci se décline en de très nombreux sous-genres, dans lesquels l'influence de Tolkien est parfois complètement diluée, dans d'autres inspirations littéraires, folkloriques ou mythiques. C'est le cas, par exemple, du célèbre cycle du Trône de Fer, de George R.R. Martin, qui reprend de très nombreux archétypes de la fantasy, mais dans lequel l'influence de l'univers de Tolkien est infime, même si les comparaisons entre les deux sont très fréquentes. Pour paraphraser un célèbre mot de Tolkien, on pourrait presque dire « Le Seigneur des Anneaux et le Trône de Fer se déroulent dans des mondes merveilleux, et c'est là leur seule ressemblance. » Mais l'influence de l'œuvre de Tolkien est parfois sortie des chemins de la fantasy pour offrir des pistes d'inspiration à la science-fiction. Comme par exemple dans la série télévisée Babylon 5 à la fin des années 90. Mais surtout pour la première trilogie cinématographique de La Guerre des Étoiles de George Lucas entre 1977 et 1983, qui emprunte ainsi indirectement au Seigneur des Anneaux un certain nombre d'archétypes. On pourrait presque dire que la boucle est bouclée si on considère l'influence considérable de l'épopée cinématographique de George Lucas sur celle de Peter Jackson, qui a justement pour objet d'adapter l'œuvre de Tolkien. La sortie de la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson en 2001 a relancé et décuplé l'intérêt du public pour Tolkien, offrant au genre de la fantasy un renouveau inespéré et lui ouvrant en grand les portes du cinéma, un média où la fantasy peinait à s'exprimer. Le monde de Tolkien est remarquable de par sa précision et sa profondeur. La vraisemblance de sa mythopoeia est le pari réussi de Tolkien, qui démontre brillamment, à travers sa propre œuvre, la solidité de ses théories sur les contes merveilleux, la vérité sous-jacente des mythes et la création secondaire. C'est ce qui explique sans doute l'arrière-goût de regret, de mélancolie chez le lecteur, lorsqu'il termine un livre de Tolkien. Le regret d'avoir tourné la dernière page, de ne plus pouvoir s'immerger dans la fantasy de la Terre du Milieu. Alors, et c'est peut-être là le véritable et le plus noble des héritages du Seigneur des Anneaux, alors vient le temps pour le lecteur du besoin d'approfondir. Certains se tourneront vers de nouvelles découvertes littéraires. D'autres s'immergeront dans des recherches linguistiques, mythologiques, géographiques ou historiques, dans la variété des sciences humaines ou des sciences tout court, et dans toutes les formes artistiques aussi. Certains en feront leur métier, écrivains, éditeurs, illustrateurs, chercheurs. D'autres en resteront à la forme plaisante de l'amateurisme éclairé. Ainsi, indirectement, Tolkien, qui touchait avec génie à toutes ces matières et s'intéressait à toutes les formes de l'art, a passé le relais de ses propres préoccupations sur le monde à ses millions de lecteurs. Des millions de lecteurs qui s'emparent eux-mêmes de ce relais, depuis la sortie du Hobbit en 1937, en fonction de leur propre sensibilité, afin de pouvoir toucher encore, du bout des doigts, les merveilles et les mystères de la Terre du Milieu.
wings of light took her bow, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the gloom and walked the night alone.
Doesn't the dark of night seem to her more?
Dark Lord rides in force tonight, and time will tell us all.
Shake the castle wall, the ring raises.